gré du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous toutes et tous à l'écoute, Armand Dubois au micro. Après deux années comme reporter au grand journal de TQS, le réseau TVA le recrute pour sa salle des nouvelles. C'est ainsi que s'amorçait sa carrière comme journaliste à la télévision. Intéressé par la vie et le quotidien de ses contemporains, il a même, pendant un certain temps, été un vrai explorateur urbain. Par la suite, sa passion pour le web fait de lui un patrouilleur du net, une passion qui a pris une grande place puisque depuis 2007, il se consacre à la préparation de ses chroniques et à son émission télé Vlog. Animateur télé, chroniqueur radio et surtout, sympathique ex-collègue, Dominique Arpin, bonjour!
Salut Armand!
C'est vrai qu'on a... On a côtoyé les mêmes personnes, la même salle de nouvelles. Et j'ai un beau souvenir de vous, Dominique, à l'époque où Julie Payette, vous vous souvenez, ouais. Allait faire sa première envolée dans l'espace.
Mais c'était votre spécialité, ça, me semble,
mais à l'époque. Je couvrais, puis vous souhaitiez, il me semble, aller à Cap Canaveral, et ouais. C'est moi qui ai été le chanceux.
Là, tu vois, je suis là aujourd'hui. Donc, c'est un retour d'ascenseur, c'est ça?
Un retour d'ascenseur. Mais ça a été une belle époque.
Ah oui, oui. Ça me manque, ces années-là... À TVA, puis là, je ne juge pas ce qui se fait aujourd'hui, mais où on avait cette espèce de besoin-là de faire des reportages. On partait là, tu sais, en tournage des journées complètes, puis on avait du temps pour faire nos montages, puis les fignoler, puis on avait le temps de prendre le temps d'écrire. Puis moi, c'est ce que j'aimais du métier de journaliste télé, c'était le côté aussi de réaliser quelque chose, une petite capsule de 2 minutes, 2 minutes 30 chaque jour, alors qu'aujourd'hui, on est plus dans le direct. Bon, c'est une autre façon de faire l'information, moi, qui me rejoins moins, mais on a eu ce bonheur-là, vous et moi, je pense d'être à une époque quand même qui était assez intéressante en télé.
Mais aujourd'hui, vous faites de l'animation radio tous les matins à l'antenne d'énergie. Vous devez vous plonger littéralement dans l'information.
Ouais. Et chaque jour, je remercie le bon Dieu d'avoir eu cette carrière-là à TVA pendant des années comme reporter. Ça m'a formé à la radio, comme dans la plupart des médias aujourd'hui. Ce qui est important aussi, c'est la culture générale, c'est d'être rapide sur la compréhension de l'information. C'est aussi les contacts que j'ai accumulés pendant toutes ces années-là qui me permet, quand je vois une nouvelle, d'être en mesure de la traiter. Même si je ne me considère plus comme un journaliste aujourd'hui, j'ai encore les fondements, j'ai étudié en journaliste. Donc, pour moi, c'est encore des outils qui me servent dans mon travail.
Comment devient-on, parce que je disais tantôt que vous avez commencé comme reporter au grand journal de TQS, puis ensuite, bon, vous êtes passé à TVA, puis on sait, bon, la suite a été assez extraordinaire et vous voilà maintenant à l'animation d'énergie. Il y a plein de jeunes qui vous voient, pour qui vous êtes une idole, parce que vous êtes très branché et qui aimeraient peut-être exercer le même métier que vous. C'est pas facile de se faire une place dans ce métier.
Non, mais ça l'est peut-être plus aujourd'hui, je dirais, que ça l'était à notre époque, compte tenu de la démocratisation des outils de diffusion. YouTube, là, aujourd'hui, si tu as du talent puis tu as une caméra qui t'a coûté 50$, tu peux en faire des vidéos sur le web. Puis si tu es le bon puis que tu as du talent, bien, les gens vont te suivre. Puis éventuellement, ça pourrait aboutir à une carrière. Alors qu'à notre époque, bien, il y avait... 3-4 stations de télé, des radios, des journaux. Puis là, il fallait que tu arrives avec un baccalauréat puis de l'expérience.
Mais
pour
qu'est-ce qu'une bonne, je vais vous reprendre au mot, qu'est-ce qu'une bonne vidéo qui se retrouve sur YouTube, qu'est-ce que vous appelez une bonne vidéo?
Bien, c'est quelqu'un qui, par exemple, sait bien se présenter, qui a des arguments. Un vlog, c'est ça, c'est quelqu'un qui s'adresse à une caméra, ça peut être dans son bureau, dans son sous-sol, mais qui a des arguments, qui a des propos intelligents et essentiellement qui a quelque chose à dire. Et c'est ça qui est fantastique aujourd'hui de... Facebook, YouTube, Twitter et compagnie, si tu as quelque chose à dire puis que c'est pertinent, bien, les gens vont t'écouter.
Alors, on n'est plus seul sur cette planète. On est branché avec l'ensemble des autres humains. Il y avait Légaré qui disait, je comprends pas, on m'a dit que le monde m'était accessible, mais depuis que j'ai un ordinateur, je me retrouve tout seul dans mon sous-sol.
Oui, mais ça, bon, il y a cette vision-là du web qui existe, oui. Mais il y a des centaines et des centaines d'histoires de gens qui... étaient seuls dans leur sol et grâce à l'ordinateur ont rencontré des communautés.
C'est vrai. Je parle de solitude parce que la prochaine chanson, je traduis, c'est une traduction libre, c'est une chanson anglophone, mais elle se termine en disant « Sache que tu n'es pas seul parce que je vais faire en sorte que cet endroit soit ta maison ». On écoute Philip Phillips.
Hold on to me as we go, as we roll down this unfamiliar road. And although this wave is stringing us along, just know you're not alone. 'Cause I'm gonna make this place your home. Settle down, it'll all be clear. Don't pay no mind to the demons, they fill you with fear. The trouble in my drag.
C'est une chanson qui a une grande signification pour vous.
Oui, et c'est drôle parce que je ne savais pas que tu allais traduire les paroles de la fin. Puis c'est vraiment cette phrase-là, moi, qui m'a fait craquer. Je me souviens encore, je venais d'apprendre par mon médecin que j'étais atteint d'un cancer. Puis là, je suis dans ma voiture, puis je retourne à la maison. Et c'est cette chanson-là qui joue à ce moment-là. Et je peux pas. Je sais pas encore comment j'ai réussi à me rendre chez nous. Je me suis liquéfié dans la voiture. Je pleurais. Et cette chanson-là est venue. C'est comme si c'était rentré là, comme un coup de couteau. Donc, c'est une chanson très, très significative que j'écoute encore avec beaucoup de bonheur aujourd'hui parce que ça m'a quand même. Ça m'a donné confiance d'une certaine manière.
Comment, effectivement. J'imagine que c'est dévastateur lorsqu'on reçoit un diagnostic de cancer, pour tous ceux qui apprennent que le cancer est présent. Vous étiez dans la force de l'âge, et puis vous apprenez soudainement, bon, vous aviez un petit malaise, je présume, vous passez des examens, et puis le diagnostic tombe.
Ouais. Ben c'est... l'image là, qu'on se fait de cette nouvelle-là, c'est celle qu'on voit dans la fameuse publicité où la personne tombe à la renverse là, avec sa chaise. Là, c'est fulgurant. Moi, j'avais l'impression que je tombais dans le vide. Là. Même si je m'y étais d'une certaine manière préparé, parce que bon, quand ton médecin t'envoie 2-3 fois faire et refaire des examens, puis qu'on vit à son bureau après les heures d'ouverture habituelles, tu sais que c'est pas pour t'annoncer que tout va bien, mais tu te dis, ah, c'est peut-être bénin, ou mais là, finalement, moi, je me souviens des mots, c'était comme en écho, là, j'ai entendu cancer, j'ai entendu masse volumineuse et rein dans la même phrase. Et là, dans ma tête, j'ai fait comme, OK, c'est fini.
Faut le dire, vous aviez un cancer, on appelle ça un cancer clair.
Oui.
Donc, une masse sur un de vos reins.
Exact.
Heureusement, les ganglions n'étaient pas atteints, mais il fallait une intervention rapide.
Oui. Moi, j'ai été opéré 2 mois après donc ce diagnostic-là. La tumeur était trop importante pour qu'on arrive à sauver une partie du rein, donc c'est le rein au complet qui a passé. Mais dans la grande loterie des cancers, je m'estime aujourd'hui chanceux parce que je vis très bien avec un seul rein. J'ai pas eu à faire de chimio, j'ai pas eu à faire de radio. Moi, je m'implique beaucoup auprès de la Société canadienne du cancer et les relais pour la vie aujourd'hui.
Oui.
Et je passe énormément de temps avec des gens qui souffrent de la maladie. Et à chaque fois, je me dis, je suis vraiment, moi, dans mon histoire, je suis chanceux parce que j'ai retrouvé ma vie. J'ai pas eu à changer ma façon de vivre non plus. Donc, vraiment, je m'estime assez chanceux.
Et on a besoin des autres à ce moment-là, je présume. La présence de l'autre est importante.
Mais tu sais, Armand, tantôt, tu parlais des réseaux sociaux, puis à quel point ça isole les gens, puis qu'on se ramasse des fois tout seul dans son sol. Mais étonnamment, moi, j'ai des amis, là. J'ai vraiment de très bons amis. J'ai une famille aimante. J'ai des enfants qui ont été là pour moi. Mais si je te disais que un des plus grands bienfaits que j'ai eu quand je l'ai annoncé publiquement sur les réseaux sociaux, sur mon blog et compagnie, c'est les commentaires et les témoignages de parfaits inconnus qui m'ont dit essentiellement, on t'aime, on va penser à toi, on va t'envoyer des ondes positives. Je suis passé par là, ma mère est passée par là, mon frère est passé par là, aujourd'hui, il vit très bien. Écoute, c'était fulgurant le bien que ça m'a fait. Et ça venait de gens sur Facebook et Twitter que je n'avais jamais vus et que je ne rencontrerai jamais dans ma vie, probablement.
Et c'est curieux parce que vous nous proposez la chanson de Bluer, Song 2.
Oui.
Encore une fois, traduction libre d'un des aspects de la chanson qui dit quand je me sens engourdi, et on l'est probablement quand on vous apprenait que vous avez le cancer, on vous opère. Et puis finalement, de jour en jour, ça s'améliore, mais au lendemain de l'opération, c'est pas quelque chose de facile non plus.
Non, ben moi, je fais une confidence. Ma grande crainte, c'était de ne pas me réveiller de l'opération. Ma peur, c'était ça. C'était pas de me réveiller puis de souffrir. Ma peur, c'était de ne pas me réveiller. Et d'ailleurs, j'angoissais totalement sur l'anesthésie. Là. C'est le bout là, qui me faisait... Moi, perdre le contrôle, là, dire que la lumière s'éteint puis que je peux pas rien faire, ça me terrorisait. Et donc, à la seconde, je m'en souviens encore, la seconde où je me suis réveillé dans la salle de réveil, même si je souffrais, j'ai souri. Parce que là, je venais de passer, en tout cas dans mon livre
première
à moi.
Victoire.
Oui, l'étape ultime, j'étais encore vivant. Et là, à partir de maintenant, je ne pouvais qu'aller mieux. Mais effectivement, quand ça s'est mis à dégeler, entre guillemets, là, j'ai su que c'était pas gagné encore.
Mais quand même, vous avez pu sécher vos pleurs,
oui.
Daniel Bélanger.
Oui, effectivement. Ça a pris quelques jours, mais je les ai séchés.
J'ai jamais vu une fille pleurer autant pour un garçon. Jamais vu l'amour créer de la haine de cette façon. Ces chagrins de jour vont finir dans ceux de la nuit. Faut l'avoir marché de pas lourd, comme si chaque pied pesait sur lui. Sèche tes pleurs, je t'en prie, sèche tes pleurs. Il y a 15 jours est parti celui qu'elle voulait pour longtemps, est parti celui dont elle souhaite la mort maintenant. Qu'il crève mieux qu'il souffre, qu'une
fit le largue par des subords, que dans ses larmes comme moi s'étouffe, que le sud de la fille lui fasse du nord. Sèche tes pleurs, sèche tes pleurs, je t'en prie, sèche tes pleurs. À qui veut bien l'entendre, elle en dit du mal autant qu'elle peut, le con, le chien, le salaud. Pas de gentillesse, pas de souvenir tendre, il pleure et pleure encore. Qu'avec toutes les larmes qui tombent, j'ai pensé calmer mes remords et fournir en eau le tiers bon. Sèche tes pleurs, sèche tes pleurs, je t'en prie, sèche tes pleurs. Sèche tes pleurs, sèche tes pleurs, je t'en prie, sèche tes pleurs. Qui je vois cet après-midi, son pauvre diable tout aviné. Je l'aime et je m'ennuie, pourquoi tu vas pas la retrouver? Et je me disais tout bas, vas-y, elle se meurt de te revoir. Cours-y, me rendre service à moi, boucher l'affluent de la mer Noire. Sèche tes pleurs, sèche tes pleurs, je t'en prie, sèche tes pleurs. Sèche tes pleurs, sèche tes pleurs, je t'en prie, sèche tes pleurs. Sèche tes pleurs, sèche tes pleurs, sèche tes pleurs, ma sœur. Sèche tes pleurs, ma sœur.
Avec nous, Dominique Carpin. Vous savez, Dominique, la Société canadienne du cancer, parce que vous êtes très impliqué auprès de cette société, a sorti l'an dernier un rapport assez dévastateur où on prévoit que le vieillissement et la croissance de la population canadienne vont entraîner une forte hausse du nombre de cas de cancer d'ici 2030, 40 % de plus qu'actuellement. Donc, c'est une réalité à laquelle il va falloir faire face pour bien des gens. Mais malgré tout cela, ça apporte paradoxalement de grandes joies, parce que vous avez, par exemple, vous, par votre implication, participé à des événements qui sont vraiment des bombes de joie, je dirais. Je pense, par exemple, au Gala des grands chefs.
Ouais.
Ça, c'est un événement qui est très valorisant, parce ouais. que vous avez pu amasser, je crois, quoi, 200 000 $ lors
de... Je me souviens pas exactement, à Gatineau, là, c'était une magnifique soirée, au casino du Lac Lémy. Et moi, je me souviens encore quand j'étais chez le médecin à l'hôpital avec mon chirurgien, il me parlait là, de la suite des choses, est-ce que j'allais ou non vouloir le dire publiquement que j'avais eu un cancer, puis comment j'allais gérer finalement cet aspect-là, l'aspect médiatique de mon cancer. Et c'est à ce moment-là, moi, que j'ai décidé que j'allais m'impliquer, puis le dire publiquement, puis aussi... me servir de ma petite renommée pour essayer d'amasser le plus d'argent possible pour le soutien, la recherche et la prévention. Donc, ça fait en sorte que j'ai pu donc m'impliquer dans des événements comme celui-là, comme les...
Et vous avez côtoyé aussi des gens qui étaient aux prises avec cette
ouais.
maladie.
Ouais.
Vous avez pu les réconforter.
Ouais.
Donc, on entre, et c'est pour ça que je parle aussi de joie, parce que c'est une occasion pour entrer en profondeur dans une relation avec quelqu'un.
C'est drôle, mais quand tu as eu le cancer, c'est comme si tu rentrais dans une famille. Les gens, on dirait que le filtre naturel là, que les gens ont quand ils aperçoivent une personnalité publique puis sont un peu gênés, à tombe. Moi, les gens viennent me voir maintenant spontanément me raconter leur histoire ou l'histoire de leur mari ou l'histoire de leur enfant. Et ça crée une intimité instantanée. C'est comme si on réussissait à se parler sans se parler, puis les mots viennent naturellement. Et ça, pour moi, c'est un privilège, sérieusement, là, de pouvoir connecter avec des gens comme ça de façon aussi intense dans des fois des lieux insolites. Je trouve ça fantastique. Et moi, le bien qu'on m'a fait quand j'ai appris que j'étais malade, puis que l'amour que j'ai reçu, bien, maintenant, j'essaie de mon mieux. Là, je sais que des fois, tu n'as pas nécessairement de l'énergie tout le temps, mais j'essaie de faire le plus possible pour redonner au suivant puis pour réconforter les gens qui sont dans la situation dans laquelle j'étais.
L'énergie, ça, vous l'avez à la radio.
Oui, c'est ça. Mais des fois, il en manque un peu parce qu'il y a beaucoup de courriels qui rentrent, beaucoup de messages sur les réseaux sociaux, les gens qui vont de très, très longs commentaires sur ce qu'ils sont en train de vivre. Et là, tu ne peux pas te contenter de répondre « merci de m'avoir écrit ». J'essaie de développer la... Et ça prend du temps, des fois, j'en manque un peu.
Est-ce que ça nous fait revoir notre philosophie de la vie, de façon générale, après avoir traversé un cancer?
C'est un reality check, là. On va se dire les vraies choses. Moi, je peux pas dire que ça a modifié ma vie là, radicalement, là, comme j'en entends certains, parce que déjà, j'avais, je pense, atteint un certain équilibre là, entre ma vie personnelle, ma vie professionnelle, bon, et tout ça. Mais c'est sûr qu'il y a des ajustements, là. T'as un petit peu plus d'intolérance avec la perte de temps. Tu veux faire les choses pas nécessairement plus vite, mais tu... Disons que les objectifs que tu t'étais fixés à long terme, tu t'arranges pour les faire...
La valeur qu'on apporte aux choses se transforme quand même.
Oui, effectivement.
Il y a des choses qu'on va laisser tomber
ouais.
pour focusser davantage.
Le futile prend le bord un petit peu plus.
Le futile disparaît.
Puis les amis que tu prends pour acquis, puis qui là se sont révélés pendant la maladie, mais là, tu réalises que c'est des gens importants puis tu dois leur consacrer plus de temps.
Et là, la santé?
Là, ça va super bien. Je suis, sincèrement, je pense que j'ai jamais été aussi en forme que ça de ma vie. Je cours, je fais du CrossFit, je m'alimente vraiment bien. Et le fait aussi d'avoir un seul rein aujourd'hui fait en sorte que ben, j'ai éliminé plein de choses. Couper sur l'alcool, boire plus d'eau, couper sur le sel. Donc, forcément, ça a un impact aussi sur le reste de mon corps et... Je touche du bois à tous les... je vais toucher Armand, voilà. C'est sûr qu'à tous les 6 mois, je dois retourner à l'hôpital, passer des tests pour s'assurer que ça réapparaisse pas ailleurs. Mais ça fait déjà, quoi, 2 ans et demi, puis tout va bien.
Est-ce qu'on est plus tolérant, rapidement, face à la souffrance des autres?
Oui, je... Plus d'empathie, je dirais, ou peut-être plus de compréhension. Parce que c'est vrai que des fois, tu regardes des gens qui souffrent, tu te demandes pourquoi, puis s'ils sont pas en train de se plaindre pour rien. Puis on dirait que là, je comprends mieux c'est quoi souffrir et je comprends mieux la détresse que ça peut amener. Donc, quand tu la comprends mieux, ben tu t'es plus empathique.
Mais vous êtes aussi l'incarnation de l'espoir, et ça, c'est déjà un signe très, très encourageant. On va se quitter sur ces belles paroles pour notre première partie avec une belle musique interprétée, et c'est la composition d'ailleurs de l'interprète Keith Jarrett. Ce n'est pas le concerto de Cologne. C'est une pièce qu'il a composée ces dernières années et qui a pour titre « Nothing but a dream ».